Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
On va se parler de surenchère. C'est la folie en ce moment sur l'île de Montréal. Et c'est drôle, j'ai mon ami Hugo Meunier qui faisait un post Facebook récemment, pris en photo une brochure qu'il a reçue par la poste. Et plein de gens l'ont reçue, cette brochure-là, ce pamphlet-là. C'était une pub d'agent d'immeuble. On peut plus dire agent d'immeuble, faut que j'arrête de dire ça. Courtier. Ce sont des courtiers. Ils vendent des maisons. Ils nous font de la publicité. Et là, on rentre à la maison, on ramasse la brochure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des duplex, des triplex, des maisons qui ont été vendues hein, par les courtiers en question. Et là, maintenant, on a vu apparaître quelque chose qui est assez particulier. Un petit bandeau. En plus du bandeau vendu, c'est marqué « vendu en surenchère ». Et là, c'est en rouge. Et là, on comprend qu'on peut faire la passe de cash. Et vraiment, c'est en train de créer un fossé de plus en plus grand envers les acheteurs et les vendeurs à Montréal. Et tu sais, on garde confidentiel hein, le montant des offres lorsqu'on fait des transactions immobilières. Et ça favorise tout ça. On en parle avec Amine Ouazad, qui est prof au HEC de Montréal. Monsieur Ouazad, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Pardon, merci pour votre invitation.
Je suis une madame. je veux qu'on se parle de la surenchère parce que le premier réflexe qu'on a quand on parle de surenchère et de la flambée des coûts à Montréal, c'est un de se dire que ça n'a pas de bon sens, que ça empêche des gens d'accéder à la propriété. Puis tu as toujours du monde qui arrive dans le détour puis qui disent « Ouais, mais vous savez, c'est le concept de l'offre et de la demande. »
Ben, c'est vraiment important d'avoir de la transparence sur les offres qui ont été réalisées et sur les transactions, sur les prix de transactions immobilières passées, parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la malédiction du vainqueur. C'est le fait que lorsque il y a une incertitude sur la valeur du bien sur lequel on enchérit, eh bien, qui gagne l'enchère? Ben, c'est la personne qui a surestimé le bien, puisque c'est la personne qui a enchéri le plus. C'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans le domaine, dans d'autres domaines, dans le sport aussi. Lorsque une équipe de sport, eh bien, elle achète un joueur, ben, c'est l'équipe qui a enchéri le plus. Et souvent, vous avez beaucoup d'histoires dans le sport, hein, de joueurs qui ont été surévalués, hein, et qui sous-performent par rapport à leur véritable valeur. Ben, dans l'immobilier, il y a quelque chose d'un peu similaire. Et il faudrait qu'on ait notre information de la part des pouvoirs publics, de la province, des municipalités, plutôt que de la part de courtiers. J'aime beaucoup les courtiers, hein, mais on a...
Ah oui? Vous trouvez qu'ils servent encore à quelque chose, vous?
C'est sûr qu'il va y avoir une disruption importante dans le marché de l'immobilier.
Ouais.
Vous avez aujourd'hui, on est à l'âge des données, on est à l'âge de l'information, on est à l'âge des données ouvertes. Et c'est un bon moment pour qu'on introduise de la transparence dans le marché immobilier dans notre province. Et sur l'ensemble du Canada, c'est pas simplement au Québec, c'est en Ontario, c'est en Colombie-Britannique.
Ouais. Mais M. Ouazad, OK, tu sais, bon, dans le système capitaliste, là, les biens ont la valeur qu'on leur donne. Ça c'est une loi immuable. Puis on revient à cette fameuse question de l'offre et de la demande. Sauf que le capitalisme, quand même, est basé sur la notion de connaissance, c'est-à-dire qu'on accorde la valeur à des biens sur l'accès à de la connaissance. La preuve, c'est une comparaison un peu boiteuse, mais pour que les gens comprennent, à la bourse, si tu as accès à plus d'infos que les autres, c'est un délit d'initié. Puis là, on a toute une industrie qui est basée sur le secret. Tu as des vendeurs qui sont avantagés. Eux autres, c'est pas de leur faute, là. C'est le marché en ce moment qui est comme ça. Ils seraient fous de pas en profiter. Mais les courtiers, ce sont les plus grands gagnants de cette stratégie-là. Quand on base tout ça sur le secret, la transparence, quand moi, je peux pas savoir, par exemple, la surenchère qui a été faite, puis que je bête n'importe comment, puis à un moment donné, on se ramasse avec des immeubles qui ont été vendus 130 000 piastres supplémentaires.
Eh oui. Alors, vous avez parlé de valeur intrinsèque d'un bien. Vous voyez, il y a une déconnexion croissante entre les prix et les loyers. C'est-à-dire que vous avez des prix qui augmentent trois fois plus que les loyers. Donc, les loyers ont beaucoup augmenté. Hein. Il y a des problèmes d'abordabilité du logement. Mm-hmm. 5% d'augmentation des loyers. Mm-hmm. Mais vous avez une augmentation des prix de 15%. La valeur fondamentale d'un bien immobilier est en train de se décrocher la valeur des transactions. Vous avez des transactions qui sont bien plus élevées que la valeur fondamentale qui est donnée par le flux de loyers. Et puis sur les courtiers, alors je sens que je vais me faire des ennemis là, mais je vais simplement dire que la façon dont les structures d'incitation sont faites, c'est-à-dire le fait qu'il y a un système de commission qui est fondé sur le prix de vente et qui est fondé sur le nombre de ventes qui sont réalisées par mois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des incitatifs, les courtiers ont des incitatifs de court terme à avoir un grand volume de transactions, puis avoir des prix élevés. Est-ce qu'ils ont intérêt à réduire le montant de dette des ménages ?
Non, eux, ils veulent une commission plus élevée. Plus la vente est élevée, plus leur commission est élevée. Mais il y a des pays où on a régulé le processus d'enchères, là.
Oui, tout à fait. Donc, on parle de temps en temps de la Norvège parce qu'ils organisent un système d'enchères formalisé. Et puis, vous avez le développement de start-up qui organisent des systèmes d'enchères organisés en ligne où le vendeur, eh bien, il peut choisir la façon dont les enchères sont reçues. Est-ce qu'on fait une enchère au second prix? Est-ce qu'on fait une enchère au premier prix? Et pour faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, qu'il y ait un bon prix de vente, parce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs, et qu'il n'y ait pas de surenchère démesurée, pas de manipulation de l'information qui est donnée aux acheteurs.
C'est ça, parce que, M. Wazat, je veux que vous nous parliez un peu du concept de prix d'ancrage qui joue pour beaucoup en ce moment sur ce qui est en train de se passer à Montréal, mais dans plusieurs grandes villes à travers le monde.
Absolument, vous avez ce phénomène psychologique qui est le phénomène de l'ancrage. C'est-à-dire que vous êtes dans une négociation et puis on veut acheter la maison de nos rêves, mais on ne sait pas vraiment quel est le prix de cette maison. Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 300? Est-ce que c'est 400? Vous imaginez les grandes différences. Eh bien, le fait qu'on reçoive cette petite carte postale en couleur et qui nous dit « Oh, regardez, quel a été le montant des ventes la semaine dernière ou le mois dernier », ça introduit un phénomène d'ancrage. Je me dis, finalement, je vais utiliser comme point de départ pour ma négociation ce que j'ai vu qui est atterri dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est un problème, ça, parce que ça veut dire que il faudrait s'assurer que ces informations qui sont diffusées, elles soient crédibles, qu'elles soient vérifiables.
Est-ce que quelqu'un qui les collige, ces données-là?
Absolument. Vous voyez, la province a confié à JLR, qui est une entreprise possédée par Equifax, qui gère nos scores de crédit, et elle a confié la gestion de ces données. Alors, c'est un tout petit peu surprenant parce que l'accès à ces données, il est payant. Donc, il faut payer une souscription auprès de JLR pour avoir ces informations-là. Bon, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que c'est un droit démocratique qu'on ait accès de façon transparente et gratuite au montant des transactions passées sur les biens immobiliers, sur lesquels on enchérit. Ça serait de la transparence.
Oui, parce qu'il y a aucun sens, Monsieur Wazad, là, pardon de vous interrompre, mais je veux dire, il y a des propriétés à Montréal qui ont été achetées. Là, je dis n'importe quoi, là, mais je sais pas, moi, voilà 5 ans, les propriétaires ont pas apporté beaucoup d'améliorations, ont pas fait de travaux sur la structure, puis là, essaient de vendre leur immeuble de 300 000 plus cher, et ils y arrivent. Et ça a des effets monstres sur le prix des résidences à Montréal, mais aussi en banlieue et dans les régions, parce que les Montréalais quittent et ça fait augmenter le prix ailleurs.
Oui, alors il y a d'autres phénomènes qui se produisent en même temps, c'est-à-dire qu'on a un crédit qui est relativement facile. Aujourd'hui, si on va sur les calculateurs des grandes banques, je regardais juste avant de vous parler, je regardais TD, par exemple, sur TD, il vous donne des crédits dans lesquels le ratio dette sur revenu est très supérieur à un tiers. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à donner des crédits très importants pour acheter des biens qui dépassent en fait notre capacité d'emprunt.
Oui, puis si les taux augmentent, il y a une couple de personnes pour qui ça ira vraiment pas bien.
Donc il y a aussi les politiques de crédit et puis il y a aussi la politique d'offre. C'est qu'il faut offrir du logement, il faut faire en sorte. C'est bon aussi pour le changement climatique qu'on ait de la densité, qu'on ait beaucoup de logements denses, qu'on ait du logement social. Donc c'est vraiment un ensemble de politiques Donc, il faudrait concevoir de façon très proactive hein, pour régler cette question du logement.
Ouais. Mais bon, M. Oisin, on va terminer là-dessus, là, mais il y a bien des gens qui regardent tout ça aller, puis c'est un constat qu'on fait depuis des années, là, la surenchère avec la pandémie, ça s'est accéléré, c'est bien sûr, là, mais à un moment donné, on se dit la bulle va éclater, ça va finir, il y a une limite à ce que les immeubles puissent prendre la valeur, puis dans certains quartiers aussi, à un moment donné, des maisons de 2 millions à Rosemont, là, ça va faire. Le voyez-vous la fin de ça?
Je pense que le Canada et les États-Unis, c'est assez différent parce qu'on fait beaucoup de parallèles avec les États-Unis en 2008 où il y a eu un grand crash. Le Canada n'a pas autant souffert en 2008 et c'est en partie parce qu'on a un système bancaire qui est beaucoup plus concentré. Mmh. On a des pouvoirs publics qui ont beaucoup plus de pouvoir de coordination des politiques de crédit. Tandis qu'aux États-Unis, vous aviez, vous avez 8000 banques, très fragmentées, très complexes, beaucoup de
prêteurs privés.
Oui, beaucoup de prêteurs privés. Donc là, ce que vous avez, c'est que je pense que à Ottawa, hein, je pense à la SCHL, je pense au gouvernement fédéral, il va y avoir une réflexion, et la Banque du Canada, il va y avoir une réflexion sur comment ralentir la croissance des prix. Il va y avoir des faillites. Il va y avoir parce qu'il y a trop de crédits privés. En fait, il y a trop de dettes privées. Mais ça va pas causer un grand crash hein, comme celui de 2008. Ouais. Mais ça va avoir des conséquences malheureusement difficiles pour certains ménages qui sont surendettés.
Ben oui, puis à un moment donné aussi, il faudrait que les courtiers fassent preuve de plus de transparence parce que qui s'enrichit, ce sont eux et ce sont bien entendu les vendeurs, mais eux, c'est pas de leur faute. Ils profitent de la facilité du marché et en ce sens-là, ils sont bien chanceux. Souvent, ils ont payé leur immeuble cher aussi, mais quand même, on se demande où ça va s'arrêter toute cette surenchère. Moi, c'est rendu que j'ai des gens autour de moi qui se disent que ça vaut plus la peine d'acheter à Montréal, qui se disent, ben moi, je vais louer à Montréal, je vais placer mon argent, je vais acheter une résidence en dehors à un moment donné. Amine Oisin, merci, qui est prof à HEC Montréal.